Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap-Cap avec Gilles Tosello. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors je reçois ce jour un homme des cavernes, hein, si je puis dire. Il a plusieurs cordes à son arc, préhistorien, spécialiste de l'art pariétal, diplômé en art graphique, docteur en préhistoire, auteur de fiction, dessinateur de BD et quelques autres choses encore dont il va nous parler. Bonjour Gilles Tosello.
Bonjour.
Alors, je crois que c'est Pessoa qui avait dit « N'être qu'un est une prison, hein. Vous, vous êtes un homme libre, vous êtes sur tous les fronts. »
Oui, j'ai plusieurs casquettes, effectivement.
Oui, un empilement de casquettes, mais que vous réussissez dans ces différentes branches avec bonheur. Alors, comment ça vous est venu, cette double professionnalisation entre le dessin et l'archéologie ? C'est vrai que dans l'archéologie, on dessine. Dans le dessin, pas forcément, on traite d'archéologie. Comment vous êtes arrivé à marier les deux ?
Je pense que le point de départ, de toute façon, c'est le dessin. Et ensuite, j'ai cherché comment appliquer mes compétences acquises dans le domaine graphique. J'ai cherché à les appliquer un peu au champ de l'archéologie parce que ça m'a toujours aussi intéressé. Et puis parce que j'ai trouvé tout à coup l'angle particulier, l'opportunité des artistes des grottes, quoi, de l'art de la préhistoire, qui me paraissait tout à coup vraiment une entrée presque naturelle pour moi, parce que ça m'interpelle beaucoup au niveau de la création, des techniques, cette incroyable diversité qu'il y a dans l'art de la préhistoire, cette aussi incroyable durée. Et rapidement, je me suis intéressé à la manière, aux techniques de ces artistes de la préhistoire, et en menant, on veut dire, côte à côte, une activité d'illustrateur et de graphiste, cette fois-ci, on va dire, plus généraliste dans le domaine du patrimoine, le monde de l'édition ou du musée.
Alors le dessin, ça a commencé par le dessin, mais le dessin, vous avez commencé à être très jeune ou c'est venu sur le tard? Ou alors est-ce que dans votre famille, il y avait une tradition de dessinateur?
J'ai un grand-père qui était cheminot et qui était peintre, on disait à l'époque peintre du dimanche, quoi, qui le faisait en tant que loisir. Peut-être qu'il m'a montré quelques rudiments, mais en fait non, je pense que c'est quelque chose qui est assez intuitif, hein, dans... chez les personnes, chez les individus.
Donc c'est un don.
Moi, je pense qu'au départ, il faut un tout petit, une prédisposition. C'est comme la musique. Il faut avoir l'oreille. Pour le dessin, il faut avoir un peu la main et l'œil, quoi. Voilà. Et ensuite, évidemment que ça s'entretient, ça se travaille. C'est beaucoup. Enfin, c'est une pratique constante, quoi.
Et vous avez fait un bac, je crois, bac scientifique à Cannes.
Voilà, je suis originaire de Cannes du Sud-Est, et donc à l'époque j'étais un bon élève, et donc les bons élèves faisaient des bacs scientifiques, on se posait même pas la question.
Après, j'ai pas dû être un bon élève alors, parce que je fais un bac littéraire.
Donc... Pour les parents, c'était voilà. Moi, on m'a dit, j'ai pas eu le choix. Ça me plaisait pas beaucoup, hein. Mais d'ailleurs, il y a qu'à voir. C'est dès que j'ai passé le bac, j'ai tourné la page, quoi.
Et alors cette page, vous l'avez tournée pour aller à cette école de cette ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs,
voilà.
C'est ça?
Qui se trouve, elle a une adresse prestigieuse, elle est rue d'Ulm, c'est-à-dire à côté de l'école normale supérieure.
Ah oui, vous étiez
pas du même côté de la rue. Elle était pas du même côté de la rue. Mais et ça aussi c'était le départ. Donc on montait à Paris à l'époque, comme on disait. Et pour moi c'était une grande aventure parce que finalement, après avoir passé ce bac, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et donc là j'ai quelqu'un qui m'a conseillé, voilà. Comme je pratiquais déjà pas mal le dessin, je me suis dit, il faut essayer d'en faire peut-être un métier. Bon. Mais par contre, il fallait ce concours. le concours des Arts Déco reste un concours, et il a toujours été assez difficile. Hein. Il y a, bon an, mal an, j'ai vu qu'il y a toujours à peu près 1500 candidats pour 100 places. Donc c'est
c'est l'école normale du dessin, c'est ça.
Non, mais ça supposait d'être préparé. Donc j'ai fait un atelier de préparation.
Qu'est-ce qu'il y avait comme matière au concours? Ou qu'est-ce qu'il y a peut-être toujours, d'ailleurs?
Alors, je ne sais pas ce qu'il y a maintenant, parce que l'art a beaucoup évolué dans sa formalisation dans la société. Et donc, ce qu'on enseigne dans les écoles, là, je ne sais plus si c'est tout à fait d'actualité ce que je vais dire. Non, c'était des épreuves, on va dire, à la fois pratiques. Il y avait de la géométrie, dans mon souvenir, des représentations de volume. Il y avait aussi du dessin d'imagination, comme on disait, quoi. Voilà, il fallait composer quelque chose. Il y avait aussi des épreuves écrites, me semble-t-il, qui est traité un peu à la place de l'art dans la société, voilà. Et voilà, après je donnerai peut-être pas de date, mais si, pourquoi pas, après tout, c'était en 1975, quoi. Et donc, pour moi, c'était une grande fierté, une grande joie d'être reçu. Et après, c'était le changement complet de vie, quoi. C'était la vie à Paris.
La vie d'étudiant.
Voilà. La vie d'étudiant. En plus, bon, la vie d'étudiant dans une école d'art, c'était quand même, on va dire, très... Voilà, c'était pas trop stressant. Hein. Alors, j'ai eu l'impression, je suis allé jusqu'au diplôme et tout, j'ai tenu 5 ans, et j'ai l'impression d'avoir rien appris sur le moment. Or, c'est quelque chose, c'est très bizarre, parce que je me suis aperçu que c'était une école très intéressante bien plus tard, et que finalement, j'avais appris des trucs sans me rendre compte.
Vous avez les fondamentaux qui vous permettent aujourd'hui de naviguer, voilà. C'est ça?
C'est ça. On nous a fait réfléchir sur... on faisait de l'analyse d'image. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Comment ça se compose, etc. Voilà. Des trucs aussi basiques que ça, qui m'ont ensuite été extrêmement utiles, mais même dans l'art préhistorique. Hein. Je m'aperçois que beaucoup d'archéologues n'ont aucune formation artistique. Et donc, ils croient que l'art de la préhistoire, c'est quelque chose de, finalement qui s'étudie comme une discipline scientifique comme une autre. C'est-à-dire... comment on peut étudier l'environnement, comment on peut étudier la taille du silex, voilà, ou la chasse du gibier, ben on va étudier l'art. Bon. Si on ne sait pas, si on n'a pas, à mon avis, de culture artistique autre, mais toute période et tous azimuts, hein, tout continent, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas...
Percevoir.
Percevoir, exactement.
Qu'est-ce qui faisait vos petits camarades qui sont sortis de l'école, quel était l'avenir qui leur était promis? Parce que le vôtre a été certainement très atypique, mais eux, ils partaient vers où?
Moi, en fait, ce qui m'a aussi... à l'époque, on était préparés à travailler. Alors moi, j'avais pris une option qui s'appelait communication visuelle. Et donc, en gros, on apprenait à faire le graphisme et le dessin et l'illustration sous toutes ses formes de l'époque. Hein. C'était donc l'ère pré-numérique. Et donc, on était un peu préparé à travailler dans un monde du travail dans lequel la publicité était extrêmement présente. Voilà. Et normalement, beaucoup de mes copains de l'époque ont trouvé des places en sortant dans des grands studios de pub. Moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas du tout.
Donc vous auriez pu dessiner pour des collants, pour des marques de café, de bagnoles,
j'ai travaillé pour un de mes profs. Je faisais des étiquettes de boissons, des trucs comme ça, hein, des pubs pour des meubles. Voilà, bon. Ça m'intéressait pas vraiment. Et je me suis dit, je vais pas passer ma vie à faire ça. Et donc, c'est pour ça que quand vous m'avez interrogé sur les personnes qui m'ont marqué dans la vie, je suis revenu à ce prof qui s'appelait Patrick Brault, qui est décédé lui aussi depuis fort longtemps, qui lui était un passionné de préhistoire. Il nous faisait un cours de sociologie de l'art, on va dire, la place de l'art dans la société au fil du temps, etc. Mais il avait vraiment un domaine plus qu'un loisir, c'était un vrai passionné. Et donc, il organisait des voyages d'étudiants. Et donc, comme ça, nous sommes allés à quelques-uns, une dizaine, on est allés visiter des grottes dans le Périgord et dans les Pyrénées et en Espagne. Et là, je dois dire que j'ai attrapé une sorte de virus, quoi, voilà. Je me suis dit, c'est pas possible, faut que je revienne. Voilà. Je peux pas m'arrêter comme ça. Et d'où l'idée, lui m'a dit après, tu sais, si ça t'intéresse, il faut que tu passes par la voie universitaire, sinon ça n'a pas de sens. Il faut, on peut pas continuer, fais pas comme moi, un amateur, il n'y a pas d'issue. Donc. Et donc, j'ai changé. Je sortais de la rue d'Ulm. Je suis allé, toujours dans le 5e arrondissement, mais de l'autre côté du Luxembourg, rue Michelet, à l'Institut d'art et d'archéologie. Et là, à l'époque, le diplôme des arts déco permettait une équivalence. Et donc, je suis rentré, j'ai fait l'économie des deux premières années de fac, et je suis rentré directement en licence.
Tout ça pour faire une thèse en archéologie, voilà. dont le sujet était...
Le sujet, c'était des gravures sur pierre, donc de la fin du paléolithique, qui datent à peu près de 15 000 ans, qui sont des pierres gravées qui étaient conservées au Musée des Antiquités Nationales. Donc là aussi, c'était un sujet parisien, pour pouvoir être maîtrisé, quoi.
Oui. Voilà. C'est toujours pareil, il fallait payer l'impôt révolutionnaire, comme on dit. Et alors là, vous sortez avec un bagage assez finalement atypique, à la fois archéologue et dessinateur. Et quels ont été vos premiers chantiers? Comment vous êtes inséré dans le milieu professionnel?
Je m'y suis inséré par des relations, alors aussi bien amicales, affectives, des rencontres. En fait, dans la vie, c'est pas une découverte, mais les rencontres sont extrêmement importantes. Et à l'époque, là, on est au début des années 80, s'ouvrait un musée à Nemours, qui était le musée de préhistoire d'Île-de-France, qui existe toujours. Et donc, le conservateur de l'époque, qui s'appelait Jean-Bernard Roy, était un passionné aussi d'art, etc. Et on s'est rencontrés, il m'a proposé donc de faire des grandes peintures. C'était pas des reproductions, c'était donc des œuvres originales pour décorer des fonds de vitrine. Donc, représentant des animaux, des gens en train de tailler du silex, en train de racler des peaux, enfin, tout un tas d'activités, on va dire, quotidiennes de la préhistoire. Et ça a été pour moi très important parce que c'était un musée en région parisienne, un musée dont on parlait, etc., qui ensuite m'a ouvert la porte de beaucoup d'autres institutions. Et après, j'ai commencé à avoir donc cette activité de recherche en grotte et cette activité de graphiste et d'illustrateur en archéologie, parce qu'il fallait quand même que je gagne ma vie et qu'à l'époque, les grottes ne rapportaient pas énormément.
Archéologie, donc vous êtes basé sur la préhistoire, mais quelle époque de la préhistoire? Parce qu'elle a duré assez longtemps, cette préhistoire.
Je m'y suis spécialisé en tant que chercheur, donc pour la partie, ce qu'on appelle pompeusement le paléolithique supérieur, qui en fait correspond en gros aux 40 000, 30 000, c'est-à-dire en gros la dernière phase de la glaciation en Europe.
On appelle les gravettiens, c'est ça?
Non, c'est se découpe en tranches encore. Ça oui, va de c'est vrai que... La plus ancienne des cultures s'appelle l'Aurignacien et ça finit avec le Magdalénien. Mais ce qui est intéressant plus que les noms des cultures, c'est les bornes chronologiques. Parce que, en fait, c'est la dernière période des grands chasseurs. C'est le moment où le réchauffement climatique s'enclenche vraiment. À partir de 10 000 ans, la glaciation, elle fait partie du passé de la planète. Quoi.
C'était pas un phénomène anthropique à l'époque.
C'était pas... Non, c'est enclenché... Vous avez entendu parler de la grotte Kosker, on va en parler plus tard. Donc la grotte Kosker de l'époque, elle a été ornée dans sa partie la plus ancienne il y a 30 000 ans, entre 30 et 20 000. L'entrée de cette grotte a été immergée il y a au moins 10 000 ans. Et aujourd'hui, elle est sous 37 mètres d'eau de la Méditerranée. Donc,
elle va, et on avec la montée des eaux, elle va souffrir, j'imagine.
Ah, elle va disparaître. Probablement disparaître. Mais on peut calculer donc que depuis 10 000 ans, le niveau de la Méditerranée est monté de 36 mètres, ce qui est quand même colossal. À l'époque de la grotte Kosker, la ligne de côte de la Méditerranée était 5 km plus au sud. Donc, bien sûr qu'il rentrait dans la grotte à pied sec, mais il voyait la mer au loin. Quoi, hein. Donc, ce sont des phénomènes. L'activité anthropique, bien sûr, elle est en train de rendre les choses irréparables. Mais on peut dire que malheureusement pour nous, c'est sur une tendance déjà lourde. La planète se réchauffe. Quoi. Voilà.
Alors la grotte Kosker, puisque vous l'avez évoqué, vous êtes intervenu sur cette grotte qu'on ne peut pas visiter aujourd'hui, parce que d'abord, je pense que ça, le passage des touristes et du surtourisme l'abîmerait considérablement. Mais de toute façon, elle a une chance, c'est qu'on ne peut pas y accéder, puisqu'il faut plonger très profond, il faut remonter un canal très long, il faut le remonter avec beaucoup de précautions, je crois. Donc, comme on voulait faire connaître la grotte Kosker, on a imaginé d'en faire une reproduction. Et vous avez été un des maîtres d'œuvre de cette reproduction.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la grotte en elle-même, ce qui en reste, c'est une grotte qui est une espèce de miracle. C'est-à-dire qu'elle, c'est une grotte à topographie montante. C'est-à-dire que la plupart des grottes sont à topographie horizontale. C'est-à-dire que vous rentrez de plein pied. Et, bon, certes, vous pouvez monter dans un temps, franchir une cheminée, etc. Bon. Mais on retrouve des niveaux parfois superposés, mais horizontaux. Là, elle a une particularité, c'est que elle a une galerie d'accès qui est montante. Et le fait que ça a préservé une partie de la grotte qui se trouve au fond. En fait, ce qui nous reste, c'est probablement 20 ou 30% de la cavité d'origine. Le reste est sous la mer, donc a disparu à jamais. Et là, on est un peu les dernières, la cloche, les salles terminales. Et là, évidemment, alors moi, je n'ai pas pu plonger, je suis bien trop inexpérimenté et trop âgé, de toute façon, pour le faire. Mais donc, ça a été fait dans les années... ça a été découvert en 1991, donc ça a été fait dès le début. Il y a eu donc Jean Clotte et Jean Courtin, les deux premiers scientifiques plongeurs qui ont fait plusieurs livres sur cette grotte. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe de recherche qui est mise en place, etc. Donc là, on a fait cette réplique donc, qui se trouve à Marseille, qui a un grand, grand succès, d'après ce que j'ai vu, hein, puisqu'ils ont dépassé le million de visiteurs. On a un peu plus d'un an, ce qui est quand même extraordinaire.
Ah, c'est quand même extrêmement... Ah. C'est assez bluffant. Hein,
le... Oui, mais disons que le parti pris, et je dois dire que ça a été... ça, c'est la société qui exploite, la société Roussillon, qui a eu cette idée de faire visiter les gens dans des modules. Puisque la grotte s'est adaptée aussi à cette cavité qui est petite. Enfin, les galeries qui nous restent sont petites, donc de toute façon, on ne peut pas passer... Dans la plupart d'entre elles, on ne peut pas se redresser, on ne peut pas passer debout. Donc il fallait trouver un subterfuge, ou bien surélever artificiellement les plafonds, ou bien creuser une tranchée pour faire en gros circuler des petits modules électriques, qui sont plus incroyablement bien adaptés, parce qu'il n'y a pas de bruit, etc. Voilà, bon.
Et puis ça permet d'avoir un maximum de gens, parce que là voilà. Ils sont contraints dans le temps qu'ils vont passer en bas.
Exactement.
Donc commercialement, j'imagine que c'est pas mal.
Ben, on optimise. Voilà, ça concilie le tout. Et là, voilà, c'est-à-dire qu'il fallait un professionnel du tourisme pour trouver cette idée. J'avoue que c'est la première fois qu'on visite une grotte en module. Quoi. D'habitude, toutes les grottes qu'on connaît, répliques ou aux grottes originales, elles sont visitées par des guides, avec des guides.
Et ça a quand même un avantage, c'est qu'on s'oublie soi-même complètement, parce que quand on est dans la grotte, on regarde où on met les pieds, on regarde si on ne veut pas se taper la tête, on regarde... Là, on est assis confortablement, et puis on plonge complètement dans un autre monde.
C'est exact. Moi, je pensais que ça ne marcherait pas bien avec les jeunes, par exemple, parce que je me disais, quand même, les modules se déplacent très lentement. Or, ils sont parmi ceux qui sont les plus heureux d'y être.
Donc, là, les vieux aussi.
Voilà, les vieux aussi.
Je vous confirme.
Parce que ça économise, voilà, ça économise les déplacements et tout. Ça permet, c'est vrai que c'est assez démocratique aussi, parce que ça permet même aux gens, on va dire, handicapés de le voir. Hein. Donc, c'est la première fois, en plus, c'est la première fois qu'on a une grotte en centre-ville. Elle est sur le vieux port, enfin voilà, bon.
Et à côté à côté du Mucem, dans un endroit quand même assez, assez prestigieux. Devant la mer, cet endroit, c'est fabuleux.
C'est vrai.
Puis le bâtiment qui a été fait, qui abrite le musée aujourd'hui, bon, c'est quand même une réussite architecturale. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est assez impressionnant.
Voilà, disons que c'est bien parce que c'est un bâtiment qui n'avait pas de fonction. Hein,
oui,
donc,
alors
faut le savoir.
Il a été récupéré.
Voilà. Mais enfin, bon. Il a trouvé son rôle. Quoi, et ça, c'est important.
On fait une pause musicale. Alors, bon, ce ne sont pas des chanteurs des cavernes qu'on va entendre. Hein. Vous avez choisi les Pink Floyd. On les écoute.
In a world of magnets and miracles, straight constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide.
Voilà, on quitte les Pink Floyd et puis on revient quelques milliers d'années en arrière avec Gilles Tozzello, notre invité, dessinateur, je résume, enfin bon, dessinateur et surtout archéologue et spécialiste de période extrêmement ancienne, la préhistoire. On était, avant que les Pink Floyd nous interrompent, on parlait de la grotte Kosker, on parlait de cette réplique que vous avez faite. Comment vous avez réussi? Parce que vous avez été chargé de reconstituer ou de répliquer, je ne sais pas comment il faut dire, les peintures de la grotte Kosker.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on était, il y avait deux ateliers dont un était dans le Périgord, qui s'appelle Archéos, hein, et avec Alain Dalis, et moi, nous, on était donc avec des co-diffusions à Toulouse. Ce sont deux ateliers séparés, donc qui ont été, la grotte Coscar a été réalisée pendant la période du Covid, hein, donc en plein confinement, donc avec presque une absence complète de communication physique, hein, entre nous. On était tout le temps en visio, etc. Mais bon, c'est quand même pas terrible. Et donc, ces deux ateliers, on s'est réparti un peu les œuvres. Il y avait des peintures et surtout beaucoup de gravures, hein, donc d'incisions au silex qui sont faites dans la roche. Et voilà, donc on avait, je sais plus, à peu près de mémoire, je crois que c'est une centaine de mètres carrés chacun à faire, ou un peu moins. Ce qui est déjà considérable, hein, parce que voilà, donc ça se réalise en atelier, pendant que la grotte, on va dire l'enveloppe, hein, la grotte géologique se fabrique sur place, sur le site de la réplique, donc à Marseille.
Alors comment vous êtes arrivé à reproduire des peintures que vous n'aviez jamais vues, puisque l'accès est extrêmement compliqué, et vous nous avez dit ne pas y être allé. Est-ce que les photos ont suffi? Comment vous avez techniquement pu faire?
C'est là que, bien sûr, on a utilisé une documentation, bien sûr, on a utilisé les modèles numériques, etc., de la grotte, hein, y compris les... Il y a un clone numérique qui existait déjà, hein, donc une sorte de... une jumelle de la grotte, mais qui est accessible par l'ordinateur. Donc, ça, c'était très important. Mais surtout, moi, en tout cas, je pioche dans l'expérience que j'ai eue, puisque j'ai participé à l'aventure de la grotte Chauvet 2, hein, de la réplique de Chauvet, quelques années auparavant. C'était maintenant il y a une dizaine d'années. Et donc, on a cette expérience acquise sur Chauvet 2 que nous avons réemployée, puisque nous étions les mêmes équipes à travailler sur les deux chantiers, à 10 ans d'intervalle. Nous avons utilisé les mêmes matériaux, les mêmes référents de couleurs, les mêmes pigments minéraux naturels, etc. Et donc, là aussi, c'est facilité par le fait que il y a pas mal de points communs entre les deux grottes. C'est-à-dire.
Donc, ça veut dire que vous aviez une expérience, voilà. Vous aviez déjà déblayé un peu le terrain, vous n'aviez pas trop de recherches à faire.
Non. Enfin, chaque grotte est particulière, hein. Chaque grotte est unique, en fait. Elle a des points communs avec d'autres, mais elle reste profondément originale. Mais en revanche, les techniques, oui, se ressemblent. Par exemple, la technique du fusain. Ce qu'on appelle le fusain aujourd'hui, qui est de prendre un morceau de charbon dans le foyer et de dessiner directement sur la paroi avec. Et ensuite, de pratiquer l'estompe, c'est-à-dire avec le bout des doigts, on écrase le fusain qu'on vient d'étaler sur la paroi, on l'étale, on donne comme ça progressivement, en l'étalant sur la paroi, on le rend gris, on le transforme en gris et on donne du volume.
Ça veut dire que vous avez utilisé des matériaux, de la matière pour peindre ou pour dessiner qui était identique à celle qu'avaient utilisé les préhistoriques.
C'est cela même. C'est-à-dire que on a des analyses, hein, scientifiques, des déterminations botaniques, aussi bien à Chauvet qu'à Coscar, mais c'est le cas de la plupart des grottes. Chaque fois qu'on analyse des charbons qui proviennent de grottes dans lesquelles il y a des dessins, on trouve une seule espèce qui est le pin sylvestre. C'est-à-dire... c'est un pin, hein, qui poussait aux alentours de la grotte Coscar comme de la grotte Chauvet. Hein. C'est un pin qui est adapté au climat froid. Et on l'appelle aussi le pin noir ou le pin d'Autriche. Enfin voilà. Et donc, il a cette particularité. Il doit avoir des particularités. Alors, on sait qu'il fonctionne très bien en tant que torche parce que il fournit un beau pouvoir d'éclairage, mais probablement, il doit être adapté aussi au dessin. Et donc, on s'est dit, autant respecter les choix des préhistoriques, puisque ce n'était pas très compliqué à faire. Il suffisait de faire carboniser du pin et donc de l'utiliser. Et ça, c'est très important. Après, il y a tout un tas de... Évidemment qu'on travaille en atelier et sur une reproduction de la paroi, avec des matériaux là, de synthèse aussi, hein, puisqu'on travaille sur des résines acryliques, etc. On peut pas travailler évidemment sur la paroi, hein, on peut pas faire une réplique sur une paroi de grotte, ça n'a pas de sens. Donc on travaille sur des matériaux de synthèse.
Est-ce que ces matériaux de synthèse permettent de reproduire vraiment ce qu'il y avait sur ce qu'il y aurait eu sur une paroi de roche? Parce que paroi de roche, elle a ses caractéristiques propres, peut-être aussi son humidité qu'on ne retrouve pas sur les matériaux de synthèse.
Alors ça, vous pourriez me le dire en tant que visiteur, si vous avez visité la grotte Koskher, mais la réplique, je veux dire. Donc, oui, je pense que oui, parce que là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une transposition sur un autre matériau. C'est là que se passe aussi toute la phase d'expérience de, on va dire, de petits trucs et secrets d'atelier qu'on va trouver pour donc transposer ce qu'on voit, donner l'illusion. Là, on est quelque part encore dans l'application des données de la recherche, mais on est aussi à l'interface entre les métiers d'art ou l'art tout court et la science, hein, puisqu'il faut mobiliser en fait des savoirs qui n'ont plus rien à voir avec la science pour arriver à exprimer le résultat qu'on voit sur la paroi.
Comment vous avez retrouvé le geste? Parce que ces gens étaient, on le sait, de grands dessinateurs, c'était des gens doués, on y reviendra tout à l'heure. Comment vous êtes arrivé à retrouver le geste qui permettait justement cette reproduction en y mettant du sentiment, si je puis dire?
Là, vous avez mis le doigt sur effectivement un aspect extrêmement important et intimidant dans l'art des grottes, qui est à Chauvet particulièrement, hein, parce qu'ils ont fait de très grandes figures, plus grandes qu'à Koskher. Quand vous avez un animal qui fait 1,50 m de long, qui est réalisé à base de courbes, hein, de dessinées sur la paroi, il faut... Moi, j'ai pas trouvé d'autre solution en tant que copiste ou faussaire de me mettre un peu en danger. C'est-à-dire, en gros, les artistes de Chauvet, et ceux de Koskher aussi d'ailleurs, sont des gens qui n'avaient pas l'angoisse de la page blanche ou de la toile blanche, hein, de la paroi vierge. Ils avaient en tête ce qu'ils voulaient faire. Ils arrivaient au pied du mur, si j'ose dire, et ils passaient à l'acte. Et donc, on voit que ils ne connaissaient pas l'hésitation, ou la reprise, ou la correction, très peu. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut intégrer, mais en tant que... Nous, on a quand même... Eux avaient la liberté de création, nous, on a la contrainte de reproduire ce qu'eux ont créé, d'être filaires.
Vous dites qu'ils arrivaient avec quelque chose en tête, mais est-ce que la paroi ne leur disait pas aussi ce qu'il fallait peindre? Parce qu'on a vu dans beaucoup de grottes qu'ils ont utilisé les particularités de la pierre, les formes de la pierre, et qu'ils les ont adaptées à leur dessin. Enfin, ils ont adapté leur dessin, plus exactement, à la forme de la paroi.
Oui, mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que on s'aperçoit que dans beaucoup de grottes, je ne peux pas dire la totalité parce que ça n'a pas grand sens, mais beaucoup d'exemples que je connais au moins... vous avez une inspection préalable de la paroi, c'est-à-dire une exploration, une découverte qui se passe probablement avec la torche à la main ou la lampe à graisse à la main, et qui aboutit à la création de cette œuvre-là, à cet endroit-là. C'est ça que je veux dire, avoir en tête quelque chose. Et à partir de ce moment-là, quand le déclencheur est parti, ça va très vite. C'est-à-dire que le fusain sur une paroi est une technique extrêmement rapide quand on a le talent. Voilà. Si vous regardez, moi j'ai toujours été très intimidé par les documentaires qu'on voit sur Picasso. Hein, on connaît tous le film de Paul Lézard sur la vitre, hein, le dessin du taureau. Bon, ben voilà, les artistes de la préhistoire fonctionnent comme lui. C'est-à-dire, une fois qu'il avait son projet en tête, il connaissait pas beaucoup le tâtonnement. Voilà. Bon. Là, c'est pareil. Et donc, quand on se retrouve à voir, c'est très intimidant, hein, ce que je dis. Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve. Moi, j'avais conscience, quand je faisais notamment Chauvet, de reproduire des morceaux qui sont dans l'histoire de l'art. Hein. Il y a des panneaux, le panneau des chevaux, le panneau des lions. Ils sont dans les livres d'art, ils sont parmi les œuvres d'art les plus anciennes de l'humanité. Je dis œuvres d'art, pas juste symboles dessinés sur un mur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça met quelque part la barre assez haut. Et après, voilà, il faut essayer d'être à la hauteur. Mais voilà, je vous passerai les les échecs, parce que évidemment, je me suis planté dans les grandes largeurs au début. Parce que le plus difficile étant, par exemple, je me souviens de ça, de trouver la bonne consistance de paroi. C'est-à-dire qu'on travaille avec des matériaux de synthèse qui, pour que ça dure dans le temps, pour être clair, il faut que ce matériau soit inerte. Une fois que, il ne faut pas qu'il évolue dans le temps. Il faut qu'il reste le plus stable possible. Donc, ça, on l'a atteint avec les acryliques. Les acryliques, ce sont ni plus ni moins qu'une famille de plastique. Et donc, qui polymérise. Et donc, ça n'a rien à voir avec la préhistoire. Là.
Voilà. D'où la question, on regarde aujourd'hui des dessins qui ont 30 000 ans, est-ce que le vôtre durera 30 000 ans ?
Je le pense, sincèrement, parce que vous savez que la durée de vie des plastiques est à peu près
oui, infinie. Oui, je le sais, malheureusement, devrais dire. Hein.
Là, dans ce cas, ça risque d'être quelque chose, un atout. Parce que dans la mesure où le support va être stable. Alors là où ça, par contre, ça devient intéressant, c'est-à-dire que les pigments qu'on a employés, le charbon pour le noir, les hématites, la famille des ocres, en gros, hein, pour l'ocre jaune, l'ocre rouge, etc., les teintes de paroi aussi, les terres de ciel, etc., ça, ce sont des pigments naturels, des pigments qui proviennent des carrières du sud de la France, etc. Donc, eux ne vont pas bouger non plus. Donc vous avez quand même, ça c'est rassurant aussi pour le visiteur dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, normalement, on n'aura pas d'évolution.
Alors vous venez de nous dire, j'ai utilisé globalement les mêmes matériaux que pour peindre, j'ai retrouvé quand un peu leurs gestes.
Oui.
Est-ce que vous vous sentez proche d'eux aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes un faussaire, vous l'avez dit. Il y a eu des faussaires de génie en matière de peinture. Est-ce que vous avez pénétré un peu leur esprit ? Est-ce que vous pourriez dire, par exemple, est-ce que vous pourriez répondre aux deux questions qui se posent ? Pourquoi allait-il peindre dans les grottes ? Ils sont certainement pas ailleurs, mais on l'a pas retrouvé. Les grottes avaient l'avantage de protéger la peinture. Pourquoi ont-ils été peints dans les grottes ? Et autre question, pourquoi ont-ils peint ce qu'ils ont peint, puisqu'ils ont à peu près toujours peint les mêmes choses, certaines choses et pas d'autres, et pendant 30 000 ans et dans toute l'Europe, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que vous êtes forgé une explication à cela ?
Oui, moi je me suis forgé une explication. D'abord, première partie de votre question, est-ce que je me prends pour eux ? Non, ça, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois.
Non, j'ai pas dit, est-ce que vous prenez, j'ai dit, est-ce que vous êtes arrivé quelque part à être en communication avec l'esprit de ces gens ?
Moi je dirais que j'y suis arrivé grâce à mon côté un peu schizophrène, c'est-à-dire le fait que je travaille toujours dans des grottes, donc que je les fréquente régulièrement.
Détient l'ambiance.
Ça ne me quitte jamais vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours en tâche de fond dans mon cerveau. Et donc, ça, c'est sûr que je. Reproduire, copier en matière d'art, c'est toujours une source d'enseignement infinie. Reproduire les gestes, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, le panneau des lions de la grotte Chauvet, j'ai eu la chance de l'interpréter de l'intérieur. C'est-à-dire que. Un chercheur regarde les choses de l'extérieur. Un copiste, quelqu'un qui fait une réplique, est obligé de les démonter, vous voyez, de démonter le mécanisme pour le reconstruire et finalement partir de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que moi, ça m'a beaucoup apporté. Et je reste toujours autant pétri d'admiration devant leur travail, ça c'est certain. Parce que ils ont une vision du monde. C'est-à-dire que moi, je me suis pris à mon propre piège en faisant la réplique, que ce soit de Kosker ou de Chauvet. À un moment donné, je faisais du Tosello. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la personnalité reprend le dessus. Et quand vous voyez le résultat, il y a un truc qui ne va pas. Parce que c'est trop... Il y a quelque chose qui ne colle pas avec l'ambiance. Et donc, il faut refaire, il faut reprendre. Voilà. Bon. Après, la deuxième partie de votre question, comment on explique cette motivation et cette stabilité ? Moi, je pense qu'il n'y a que le monde de la mythologie qui l'explique. Comment ça a pu durer aussi longtemps ? Les mythes ont une durée infinie. Ils ne s'éteignent jamais, ils disparaissent jamais. Ça, c'est ce que disent l'enseignement des ethnologues, comme le plus prestigieux d'entre eux, pour nous, étant Lévi-Strauss. Il a écrit des pages et des ouvrages très importants sur ce sujet. Nous pensons un certain nombre que, effectivement, ceux qui sont rencontrés dans ces grottes, ce sont des récits essentiels, des récits qui touchent aux questions essentielles de l'humanité, d'où on vient, pourquoi on est là, et qu'est-ce qui nous arrive après la mort. Bon, c'est ces questions-là qui sont traitées. Alors, l'originalité, si on peut dire qu'ils ont, et ça c'est une autre particularité, c'est qu'ils ont utilisé donc des personnages animaux, ils s'expriment à travers les animaux, probablement aussi parce que, à cette époque-là, et pendant toute cette période donc de 40 000 à 10 000, et même bien avant, il n'y avait pas, l'humanité ne se percevait pas comme distincte du monde animal, de l'univers animal. Et donc, c'est quelque chose, ils étaient profondément immergés dedans, ils chassaient les animaux, ils les mangeaient, ils fabriquaient leurs armes avec des bois de cervidés, ils taillaient du silex, ils coupaient pour se fabriquer des couteaux, pour découper de la viande, etc. Je veux dire que tout, ils faisaient, avec les dents, ils faisaient des bijoux, des dents percées, etc. Et donc, ils vivaient, les peaux servaient à les habiller ou à couvrir les tentes, etc. Donc, on vit immergé en permanence dans l'animal. L'animal qui est, en plus, si vous comparez un lion des cavernes ou un mammouth, un humain de l'époque, même d'aujourd'hui, il pèse pas grand-chose. Armes égales, on va dire. Bon. Donc, c'est facile de comprendre que l'imaginaire s'est investi sur eux, sur ce monde animal.
Mais ils auraient pu aussi peindre des hommes. Il y a très peu d'hommes. Alors, il y a des figures féminines, ou plus ou moins sexuelles parfois. Des hommes, on n'en a pas trop. Il y a l'homme blessé, les deux hommes blessés de Cugnac et celui de Pechmerle. Mais il n'y a quasiment pas de représentation d'hommes.
Et voilà. Mais parce que, là, vous apportez un peu d'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'effectivement, on connaît des exemples. Vous pourriez rajouter la scène du Puy de Lascaux, il y a un autre exemple au Roc de Serre, etc., dans la petite grotte de Villard, etc., mais qui montre à chaque fois le chasseur chassé, ou le chasseur en difficulté face au bison ou face au taureau. Et donc, ça aussi, ça véhicule quelque chose, ça véhicule l'idée que... Alors, c'est probablement là, moi je pense que c'est vraiment l'expression d'un mythe, hein, d'une histoire. Hein. C'est la part narrative, elle y est là. Elle n'est pas toujours évidente à voir, hein, mais elle y est là, là au moins. Elle y est à partir du moment où on identifie un être humain dans la scène. C'est toujours ça. Nous, on a besoin, nous, à notre époque, pour comprendre une narration, on a besoin d'avoir un acteur humain. Sinon, on ne comprend rien. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui ne sont pas persuadés que l'art des grottes est narratif, parce que justement, il y a trop peu d'humains. Or, les règles de la narration, elles s'appliquent aussi aux animaux. À Chauvet, vous avez une scène de chasse qui représente des lions en train de chasser des bisons. Ça se démontre, c'est un peu long à faire, mais on ne va pas le faire maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi des représentations féminines. Il y en a une dans la grotte Chauvet aussi qui fait... une sorte de pendant à la chasse des lions, et qui montre qu'en fait les représentations de femmes sont souvent presque exclusivement représentées par la partie, on va dire, reproductive, la partie en gros avenir de l'espèce, cycle des naissances et de la mort, etc. Et donc c'est ça, à mon avis, que beaucoup de grottes illustrent, c'est-à-dire pour vivre. Les chasseurs de l'époque devaient tuer, je parle des humains, ils devaient tuer des animaux, ils devaient prendre des vies. Et prendre des vies, pour des sociétés de type traditionnel comme celle-là, des sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est pas anodin. Répandre le sang, etc., c'est quelque part porter une atteinte à l'harmonie de l'univers. Et donc, il faut réparer. Réparer, alors ça peut être en faisant des rituels, et certainement ils en ont fait, ou bien en racontant des histoires dans lesquelles on va essayer de... Les mythes servent souvent à exprimer des peurs ou des craintes ou des tensions dans les sociétés. Et donc, ça permet, en le mettant en image, ça permet peut-être de fournir un exutoire et de le représenter.
Quelle leçon on peut tirer de ce que nous ont enseigné ces gens? Quelle leçon à notre époque on peut...
C'est plutôt déprimant pour nous. Enfin, moi, je pense que...
proximité avec la nature, avec le respect...
Alors, déjà, il faut sortir de la tête des auditeurs l'idée que oui, mais ils mouraient jeunes. Voilà, bon. Il mourait jeune, c'est vrai. Il mourait pas à 95 ans ou 100 ans comme aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais on a la preuve, grâce à certains squelettes, que certains étaient assez vieux pour avoir de l'arthrose. Le squelette de Cro-Magnon, par exemple, celui qui a donné longtemps son nom à l'espèce, aujourd'hui on dit plutôt Homo sapiens, il est mort peut-être aux alentours de 60 ans. Il avait une tumeur osseuse sur la tête, il avait presque plus de dents, etc. Il était très couvert d'arthrose. Donc, ça veut dire qu'il a été pris en charge par son groupe. Hein, voilà. Donc, il a été...
Solidarité.
Voilà, il y avait une solidarité. Et les gens confondent souvent l'espérance de vie à la naissance et l'âge de la mort. C'est sûr que, par contre, il y avait pour les nouveau-nés de ces périodes-là, des nouveau-nés préhistoriques, il y avait une période très difficile à passer... Et pour la mère, d'ailleurs, qui était l'accouchement et les premiers mois qui suivaient. Mais après, quand on avait passé un cap difficile, il devait y avoir beaucoup d'enfants dans les campements préhistoriques. Donc, voilà.
Il y en avait beaucoup, pas tant que ça, parce qu'ils régulaient quand même leur naissance. C'est des gens qui se déplaçaient beaucoup. C'est difficile, peut-être, de se déplacer avec beaucoup de marmailles, si je puis ainsi réguler, les appeler.
Ouais, réguler, je ne suis pas sûr que vous voulez dire par l'infanticide ou...
Je ne sais pas par quoi. Je vous pose la question, justement.
Il y a quelque chose de très particulier dans le monde de l'art de la préhistoire, c'est qu'on n'a pas de représentation de violence. Voilà. Très peu.
Sauf les hommes dits blessés, où on s'interroge sur le point de savoir si ça sort d'eux ou si ça rentre dans eux.
Voilà, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Mmh. Et donc, en plus, la scène du Puy de Lascaux, il a été probablement tué par le bison. Enfin bon, bref. C'est pas nécessairement... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de représentation de guerre. Et la guerre existait-elle? Honnêtement, je ne le crois pas. Parce que la guerre est liée à des questions de démographie. Donc l'Europe de l'époque, c'était un immense continent qui était presque vide d'hommes, d'humains. Il y avait très peu de gens. Il y avait beaucoup d'animaux. Et donc, on pouvait certainement marcher des jours sans voir un autre humain. Et ça, ça ne crée pas de tension. Au contraire, ça les résout.
On peut voir d'autres espèces. À l'époque, ils ont vu les Néandertaliens qui ont disparu. Je pense qu'on va en parler dans quelques temps avec Ludovic Slimak, que vous devez connaître,
et
doit aussi venir à ce micro. Donc, on parlera de cette espèce qui était assez différente de la nôtre et qui s'est éteinte assez brutalement. C'est peut-être plus facile de faire disparaître ou que disparaissent quelques millions d'individus. Là, on est presque 9 milliards, ça va être un peu compliqué.
Là, c'est très compliqué. Et pour ça, je pense que, si vous voulez, il y avait certainement... Alors, c'était pas le paradis sur Terre, mais je pense que la vie était dure, hein, les hivers étaient durs, etc. Mais il y avait quelque part, certainement, une meilleure perception de la place de l'humain dans l'univers. Je pense que ça, c'est ça que nous, on a malheureusement perdu. On ne sait plus trop où on en est. Quoi.
Mais on peut peut-être imaginer où on va. Mais là, je vais être un peu pessimiste, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, Gilles Tozzello, quand vous n'êtes pas dans vos grottes, qu'est-ce que vous faites? Vous occupez, vous faites du vélo, vous êtes arrivé en vélo électrique. Hein,
voilà, je suis arrivé en vélo. Bon, c'est vrai que je ne suis pas un grand sportif, il faut que je l'avoue. Et donc je suis plutôt... j'ai pas vraiment le loisir, je connais pas trop. C'est-à-dire que quand on aime son travail, entre guillemets, ça s'arrête jamais, quoi.
Voilà. Alors vous allez quand même voir un peu de peinture, parce qu'on a compris que c'était votre formation, votre passion aussi. Quel est le tas? Alors, choisir un tableau, c'est quasiment mission impossible, mais bon...
Vous m'avez interrogé là-dessus, et donc je pense qu'à la réflexion, moi, j'ai un tableau fétiche qui est c'est pas un tableau méconnu non plus, qui est le tableau des Ménines, ou de Las Ménines, c'est en espagnol, de Velázquez, hein, qui est du milieu du XVIIe siècle, et qui est un tableau extrêmement passionnant, parce que... c'est un tableau qui est déroutant d'abord, parce qu'on ne sait pas ce qu'on regarde. On regarde le portrait d'une infante, donc d'une princesse royale, donc de la fille de Philippe IV, roi d'Espagne, et qui est entourée donc, de domestiques, et qui est entourée de deux nains et d'un chien. Mais surtout, on voit le verso d'un tableau avec un peintre, qui n'est autre que le peintre lui-même, qui est en train apparemment de peindre le spectateur. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que dans le fond de la pièce, il y a un miroir dans lequel se reflète le portrait du roi et de la reine, qui sont en principe derrière nous. Donc on peut se retourner, mais évidemment, il n'y a personne. Et on voit aussi dans le fond de la pièce quelqu'un qui soulève un rideau comme s'il entrait ou sortait. Et donc, c'est une image extraordinaire qui, pour moi, m'introduit, vous voyez, dans le tableau. C'est comme si c'est un sentiment unique. C'est-à-dire, je connais pas d'autre œuvre qui fasse ça. C'est-à-dire, où on se sent inclus, interpellé, et malgré les siècles. Je pourrais vous citer un autre exemple, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Dans la salle du fond de la grotte Chauvet, il y a cette scène des lions et des bisons. Quand on regarde les lions regardent les bisons, tous dans la même direction. Et les bisons regardent le spectateur. Donc ce qui fait que on a une sorte de triangle, comme ça, entre le spectateur regarde les lions, qui regarde les bisons, et on se retrouve, en quelque sorte, intégré dans la scène. Et j'y ai vu, quelque part, alors de manière très artificielle, je l'avoue, mais presque quelque chose qui est du même domaine que Velázquez, de même intention, si vous voulez, d'inclure, finalement, le spectateur dans la scène. Et je trouve que, alors, on en pense ce qu'on veut, je cherche pas nécessairement à convaincre, mais moi, je m'en suis convaincu, et je trouve ça extrêmement intéressant d'imaginer que des artistes d'il y a 36 000 ans, qui ne possédaient rien, qui étaient des nomades, qui avaient à peine les vêtements qu'ils avaient sur le dos, avaient dans la tête des questions artistiques aussi sophistiquées que celles-là. Comment je vais raconter une histoire, sachant qu'évidemment il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de texte, etc. Comment je la raconte et comment je fais en sorte que le spectateur se retrouve pris dans la scène? Eh bien, je trouve que ça me laisse vraiment béat d'admiration.
Réflexion passionnante. Quel le moment qui vous a marqué le plus, c'est peut-être l'arrivée dans la grotte Chauvet. Ça aurait été dans celle de Kosker, si vous aviez pu y rentrer, certainement. Voilà. Chauvet, ça vous a beaucoup impressionné.
Oui, ça m'a beaucoup marqué, parce que, si vous voulez, il y a une autre grotte dont je n'ai pas parlé, qui est la grotte du Tuc d'Audoubert, qui est une grotte, une grande grotte, mais très secrète, qui se trouve en Ariège, qui conserve un couple de bisons modelés en argile, donc au plus profond de la grotte, donc c'est un miracle de conservation. Si vous voulez, moi j'ai toujours ce moment d'émotion très très fort quand le temps disparaît, c'est-à-dire que c'est quelque chose de... Et dans la grotte Chauvet, on l'a très souvent, au Tuc de Doubert, on l'a sur ces bisons-là, qui sont un miracle, ils ont presque 18 000 ans, Donc, la probabilité pour qu'ils soient conservés jusqu'à nous, elle était probablement proche de zéro. Et la grotte Chauvet, c'est pareil. Elle est conservée jusqu'à nous parce que son entrée s'est effondrée. C'est une sorte de cataclysme, mais ça l'a préservée comme une espèce de bulle de temps. Voilà. Et quand vous arrivez et que vous voyez les traces de doigts, les dérapages, les coups portés, parce que c'est un... Ce sont des artistes qui sont très gestuels. Hein. Ce sont des gens qui sont... C'est aussi pour ça que ça interpelle beaucoup, je pense, les artistes contemporains. C'est un art de la trace. C'est un art qui met en... Où on malaxe la paroi, on est en contact. On est presque physiquement en rapport avec. Et donc ça, quand vous voyez ça... qu'on pense une seconde à la distance qui nous en sépare, qui tout d'un coup viennent de disparaître, il y a quelque chose de très perturbant.
Sur la grotte d'Audoubert, je fais une parenthèse, mais vous avez fait un très joli petit livre, à la fois histoire et dessin. Vous pouvez peut-être nous rappeler le titre.
Le temps d'un rêve, oui.
Voilà, c'est un très joli petit livre. Les gens qui vous ont marqué, vous nous avez cité Patrick Brault, votre professeur de l'ANSAT, qui vous a mis, si je puis dire, sur les rails. Mais vous parlez souvent aussi de Jean Giraud ou Moebius, qui est la même personne.
C'est un personnage double, lui aussi, de la double personnalité. C'est quelqu'un de... Avec le temps, je l'aimais déjà beaucoup en tant qu'auteur de BD, parce que pour ceux qui connaissent, c'est lui qui est l'auteur de Blueberry, avec Charlier. Mais il a fait une grande carrière de BD de science-fiction, pour donner un nom, avec la série Lincal, etc., et un personnage mythique pour nous qui s'appelle Arzac. Parce que j'y retrouve une espèce de... J'aime beaucoup particulièrement son œuvre en noir et blanc, et au trait, parce que c'est une sorte de maître du trait qui, pour moi, ça ressemble un peu à de la calligraphie. C'est-à-dire, il y a cette espèce de pureté du geste. Vous pouvez... avec les scans, aujourd'hui, c'est facile, on peut... zoomer dans ses dessins à la plume jusqu'à les agrandir à 300 ou 400%, et vous voyez cette... Je suis toujours admiratif, moi, de la technique, parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre et ensuite à maintenir. C'est-à-dire qu'il faut une discipline, il faut une pratique. Et voilà. Il y a ça chez Moebius, et il y a en même temps une espèce d'autodérision. C'est un personnage qui prend son œuvre très au sérieux, mais qui se prend pas très au sérieux. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de distancié par rapport à son œuvre.
Et... C'est un connaisseur qui en parle, puisque on n'a pas parlé de... Alors, j'aurais pu citer tous les livres que vous avez écrits, mais ça nous aurait pris beaucoup, beaucoup de temps, ou co-écrit. Par contre, on peut parler de vos BD, puisque vous êtes un dessinateur de bande dessinée. Je crois que vous êtes en train de travailler sur une actuellement.
Voilà, on essaye, donc, avec le scénario est de Marc Azéma, qui est un... aussi qui travaillait dans l'équipe Chauvet il y a quelques années. Nous travaillons sur la publication, j'espère, l'année prochaine pour les 30 ans de la découverte de la grotte Chauvet, donc en 2024, d'un livre d'une BD qui parlera, donc c'est une sorte de visite onirique de la grotte par le biais du rêve, et qui est une sorte aussi évidemment d'hommage au monde de la science-fiction et à Moebius en particulier. Et donc, nous espérons que ça puisse sortir l'année prochaine.
Et vous avez déjà écrit d'autres bandes dessinées, bien sûr.
Oui, j'en ai écrit quelques autres, mais bon...
Écrites ou dessinées, je ne sais plus comment il faut dire.
Il y en a que j'ai dessinées. Alors, on a commencé très tôt. On était encore aux Arts Déco avec des collègues à l'époque. On avait fait le tour du monde en 80 jours. Qui n'a pas eu un gros succès, parce qu'on a eu de gros problèmes, on va dire, de commercialisation, parce que c'est toujours le problème de la BD, c'est qu'il faut s'assurer auparavant qu'on a un diffuseur, quoi, un éditeur.
Oui, alors des fois on le cherche après, quand on a écrit, mais bon. Et bien justement, puisqu'on parle de livres, pas plus de bandes dessinées, vous m'avez dit La Guerre du Feu, bon, il fallait rester un peu dans l'ambiance et le ton de notre conversation d'aujourd'hui, c'est un livre que vous avez lu assez jeune, je crois.
Voilà, c'est un livre que j'ai lu quand j'ai quitté l'école primaire. C'était à l'époque un cadeau de mon instituteur. Je ne sais pas comment il est tombé sur ce livre. Et ça m'avait beaucoup marqué. Alors, je ne suis pas sûr que ça avait influencé tout à fait ma carrière par la suite, mais parce que c'est facile de retrouver des repères comme ça... Bon. Mais il est vrai que c'est un livre qui m'a toujours fait profondément rêver à l'époque. C'était un monde complètement nouveau, etc. C'est un livre qui est ancien, qui a été écrit au début du XXe siècle, par Jean Rony. C'est un livre qui a une particularité. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça rappelle un peu l'art de la préhistoire, parce que le romancier donc fait... passe dans la tête des acteurs animaux, c'est-à-dire dans la tête vous êtes dans la tête du mammouth, vous êtes dans la tête de l'ours des cavernes ou dans la tête du félin géant. Quoi. Donc c'est quelque chose, en tant que moi j'étais gamin à l'époque, hein, ça m'avait complètement scotché. Quoi. J'étais de passer dans la tête comme ça d'un humain ou d'un animal et de se retrouver, il y a presque un dialogue entre les deux, hein. Qui se fait uniquement par la pensée, donc par l'écriture.
Alors moi, je vais vous parler de notre livre. On va rester dans le même thème. Moi qui ai voulu un peu rejoindre très, très modestement votre monde et travailler sur de la documentation pour écrire un roman. J'ai commencé par, ça a été mon introduction, Le temps sacré des cavernes de Gwen Rigal dans la maison d'édition Biophilia, avec des illustrations, il y a 95 illustrations dans le livre, hein, de Magali Latil, peut-être que vous les connaissez, et Philippe Guiton. C'est un livre qui a un sous-titre de Chauvet à Lascaux, Les hypothèses de la science. Il a eu le prix Verdaguer en 2017 sur proposition de l'Académie française et puis la mention spéciale du jury au Grand Prix du livre archéologique en 2017. Alors c'est une synthèse claire et accessible, parce que j'ai à peu près compris, de l'ensemble des hypothèses qui ont été formulées au fil du temps par la communauté scientifique, qui n'est pas toujours d'accord, pour tenter de répondre à la question de la signification et de l'art des cavernes. C'est un livre qui apparemment a pris à son auteur plusieurs années de travail. Il a essayé d'aborder un ensemble de chacune des théories, exposant éventuellement les frictions qu'il pouvait y avoir entre elles. La première partie présente l'artiste préhistorique, bien sûr, et la deuxième, il essaye de décoder un peu, si je puis dire, la pensée symbolique et spirituelle de ces artistes. C'est un livre, c'était ma première expérience de la préhistoire, et j'avoue que j'y ai pris un plaisir énorme, et je l'ai lu assez vite, et puis je l'ai relu après en l'annotant, parce que pour un béotien comme moi, c'était quelque chose d'abordable et clair, et je le recommande à tous ceux qui veulent se rapprocher un peu, s'intéresser à cette époque. Et puis après, il y a tous vos livres, Gilles Tozzello, mais alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous prendrait beaucoup de temps de les citer, mais sur sur Internet, on trouve à peu près tout ça.
Oui,
et puis,
oui, oui.
Puis on trouve sur YouTube un film qui vient de sortir sur vous, une petite demi-heure, mais très intéressante. Vous pourriez peut-être donner les références.
C'est fait par Isabelle de Miranda, donc l'association Archéomédia. Ça s'appelle Illustrer la préhistoire, avec mon nom derrière, donc Gilles Tozzello.
Voilà,
c'est sur une chaîne YouTube.
Voilà, sur le TAP, c'est une bonne introduction à la connaissance d'Yves Tozzello, à laquelle j'espère que nous avons un peu participé aujourd'hui. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio d'Esprit Occitanie, et puis peut-être que nous aurons l'occasion de vous retrouver. Je vous soumettrai une idée tout à l'heure. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, et nous avions à la technique et au bouton Léo Touroult, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Merci Gilles Tozzello encore une fois. Bonne semaine à toutes et à tous.